Après avoir tenté d'expliquer, je dis tenté parce qu'on ne peut pas toujours comprendre tout ce qui se partage, mais après avoir expliqué ce que les disciplines spirituelles ne sont pas et à quoi elles ne servent pas, ça c'est ce que j'ai fait si vous vous en souvenez dimanche passé, j'aimerais commencer aujourd'hui par donner une définition de la discipline, une définition que je vais expliquer parce qu'elle peut paraître un peu, comment dirais-je, tordue, enfin, vous me direz. Hein. Alors, une discipline spirituelle est une activité quelconque, j'insiste sur le quelconque, que je peux pratiquer en faisant un effort maintenant, pour l'installer, pour le vivre, en vue de m'aider à faire quelque chose que je ne peux pas faire en faisant un effort maintenant. C'était mon sujet de cours de philosophie en dernière année de théologie. Je plaisante, hein, ça aurait pu. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. Par exemple, lire votre Bible ou bénir quelqu'un que vous avez envie d'étrangler, si ça existe, va vous demander un effort au moment même, parfois, et même souvent, mais portera dans la durée des fruits que vous ne pourriez pas provoquer par votre propre volonté. Un autre exemple, par exemple prier, c'est une discipline spirituelle, ça j'espère qu'on est tous convaincus, qui demande un effort à la grande majorité d'entre nous, si on est honnête, mais le résultat de cet effort n'est pas que nous avons prié, mais bien que nous ayons fait un pas de plus sur le chemin où nous mène la prière, à savoir l'intimité avec Dieu. Ce n'est non pas l'effort qui est au centre de la démarche, ni la discipline, mais là où elle nous mène. D'accord ? Donc arrêtez de regarder ces pompes, mais regardez plus loin. Ok ? Alors je vais vous donner un autre exemple que j'ai tiré d'un livre pour enfants. Alors, parce que nous sommes tous des enfants aux yeux de Dieu. Ok ? Dans le livre pour enfants en question, Frog et Toad, les deux personnages principaux, font la découverte des limites de la volonté en cuisinant des cookies, et surtout en les mangeant. On devrait arrêter de manger des cookies, se disent-ils tout en mangeant. Ah, nous devons arrêter. Ils décident d'arrêter tout en reprenant un cookie. Nous avons besoin de volonté, dit Frog, finalement en s'emparant d'un autre cookie. Mais c'est quoi la volonté ? Demande Todd la bouche pleine. La volonté, c'est essayer très fort de ne pas faire quelque chose que tu as très envie de faire. À ce stade-là, les deux amis discutent de différents moyens d'aider leur volonté. Mettre un couvercle sur la boîte de cookies, mettre la boîte de cookies dans un arbre. Mais à chaque fois, Todd fait remarquer en avalant une bouchée de cookies qu'on peut très bien enlever le couvercle de la boîte, ça on avait compris, ou plus simplement encore, monter dans l'arbre pour récupérer la boîte. Saisi d'un soudain désespoir, Frog renverse les cookies restant sur le sol et crie le regard vers le ciel. « Hé, les oiseaux, il y a des cookies !»« Maintenant, on n'a plus de cookies, » dit Todd tristement. « Oui, dit Frog, mais à présent, on a des tonnes de volonté. » Et l'autre répond « Tu peux les garder, je rentre chez moi faire un cake. » Il y a quand même de super bouquins pour enfants, non ? Les disciplines spirituelles sont utiles dans la mesure où elles nous permettent de faire ce que nous ne pouvons pas faire en nous basant sur notre propre volonté. Une discipline spirituelle est donc simplement une activité qui peut m'aider à acquérir la puissance nécessaire pour vivre une vie modelée sur celle que Jésus a montrée et enseignée. Alors à ce stade-là, vous peut-être pas, mais moi je me pose des questions tout le temps, hein, peut-être même de trop. À ce stade-ci, une question peut quand même encore se poser. Combien de disciplines spirituelles existent-elles ? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vous l'ai dit, il y en a certaines qui viennent relativement facilement à l'esprit. Méditer l'écriture, prier, demander pardon à Dieu et aux autres, ça fait aussi partie des disciplines spirituelles. Elles sont une discipline dans le sens où c'est pas naturel. Demander pardon, c'est pas naturel pour la plupart d'entre nous. Hein. Servir. Mais en fait, je pense que toute activité peut se transformer potentiellement en une séance d'entraînement à la vie spirituelle. Une autre question qu'on a en droit de se poser, c'est comment savoir quelle discipline pratiquer ? Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons au préalable nous poser trois autres qui vont nous aider à discerner les choses au quotidien, pratiquement. Premièrement, nous devons être au clair sur ce que signifie de vivre dans le royaume de Dieu, d'en faire partie. Alors, la réponse est relativement simple, c'est apprendre toujours et davantage à aimer Dieu et les autres. C'est ça qui nous fait prendre conscience progressivement que nous faisons partie dans la pratique, pas juridiquement, hein, dans la pratique, du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous devons découvrir quelles sont nos barrières particulières, à moi, personnellement, qui nous empêchent de vivre ce genre de vie. Des barrières, on en a tous. Hein. Bon, il y a certains, on dirait que c'est un 110 mètres et, quoi, quand même. Des barrières, il y en a beaucoup. Et troisièmement, nous devons découvrir quelles activités particulières nous devons installer pour surmonter ces barrières, justement. Alors, laissez-moi vous donner un exemple tout bête d'application pratique de ces trois questions. Je l'ai dit, nous savons qu'être spirituel, même si j'aime pas ce terme-là, c'est aimer Dieu et les autres toujours davantage. À titre personnel, j'ai remarqué que j'avais, c'est personnel, hein, que j'avais plus difficile à aimer les autres quand j'étais fatigué. Dans mon cas, une des activités quotidiennes que je devrais pratiquer davantage afin d'aimer davantage, c'est de dormir plus. Donc, dans mon cas, dormir plus, ça pourrait devenir une discipline spirituelle. Alors, bien entendu, si vous dormez déjà entre 8 et 10 heures par nuit, dormir ne vous sera d'aucun secours, ne sera pour vous personnellement d'aucune aide pour aimer plus. Il faudra trouver la raison de votre manque d'amour ailleurs. Alors, pour que vous soyez rassurés quand même précisément sur ce que je viens de dire, parce que ça peut paraître un peu comique, je vous ai pris un psaume, il y en a d'autres, hein. Un psaume du roi Salomon, si vous n'avez pas reconnu. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il, donc Dieu, en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, il y a moyen de rentabiliser son sommeil. Ne croyez surtout pas qu'il ne se passe rien pendant que vous dormez. Dieu fait toujours quelque chose. Et puis, pour ceux qui sont encore aux études, dites-vous que quand vous dormez, il y a des synapses de votre cerveau qui fonctionnent en démultiplié pour vous faire intégrer ce que vous avez étudié pendant la journée. Il y a Tommy qui est sceptique, mais je t'assure. Hein. Rappelez-vous le prophète Élie, qui en vue d'une rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, donc une longue séance de prière, attend Élie sur le mont Horeb, s'est vu offrir de longues plages de sommeil par des anges, des plages de récupération lors de sa marche dans le désert qui devait le mener au lieu de la réunion de prière en question. Ça, c'est pour Élie. Par contre, il y a un autre événement dans l'évangile que vous vous souvenez sans doute, c'est quand Jésus est dans le jardin de cette Gethsémané, juste avant qu'on l'arrête et qu'on le mette à mort, il dit à ses trois disciples le plus proche de lui, Pierre, Jacques et Jean, « Restez ici et priez avec moi. » La suite, ils s'endorment. Et Jésus revient une heure plus tard, il dit « Vous n'avez même pas pu prier avec moi, veiller, en tant que veilleur ça me parle, veiller avec moi, ne fût-ce qu'une heure. » Il ne faut pas leur jeter la pierre, essayez de lire votre Bible, de méditer l'Écriture ou de prier quand vous êtes fatigué. Je vous souhaite bon courage. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais bien de redire que le sommeil est un don de Dieu, qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi, ni le négliger, ni le vénérer. Ma fille, elle le vénère, le sommeil, par exemple. Donc, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire au moment où je parle, plutôt juste après, ne faites pas ça maintenant, c'est peut-être de faire une petite sieste. Alors, nous avons souvent dit que les liens entre les mots « discipline » et « disciple » étaient évidents. Ça paraît évident. Il n'empêche qu'il serait bon de peut-être donner une définition à la question. C'est quoi une personne disciplinée? Alors, le premier truc que j'aimerais dire, et je suis fils de militaire, ça n'a justement rien à voir avec une conception militaire ou martiale des choses. Vous pouvez être une personne bordélique dans la vie et être spirituellement extraordinairement disciplinée. Donc, je vais tenter de donner une définition biblique de ce que c'est qu'une personne disciplinée. C'est quelqu'un capable de faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière, avec le bon esprit. Donc remarquez bien par rapport à cette définition ce que n'est pas une personne disciplinée. Une personne disciplinée n'est pas quelqu'un qui pratique des exercices spirituels. Donc ce n'est pas quelqu'un qui prie, qui lit sa Bible. Même si ces deux activités peuvent faire partie de sa vie. Une personne disciplinée n'est donc pas quelqu'un de rigide, ayant avalé un balai et se levant tous les jours à 5 heures du matin. Les pharisiens, donc les êtres les plus religieux de l'époque de Jésus, étaient des hommes disciplinés, vraiment, et organisés. Par exemple, ils jeûnaient tous les jeudis. Je sais ça parce que l'Évangile le dit. Mais ils n'étaient pas disciplinés dans le sens que Jésus attendait d'un véritable disciple. Alors, cette définition, en fait, à la réflexion, vaut pour tous les domaines. Pour les artistes, les astronautes, les sportifs, aussi bien que pour les disciples de Jésus. Un disciple de Jésus n'est donc pas quelqu'un qui est passé maître dans les exercices spirituels et ne rate jamais un de ses offices journaliers, une de ses rencontres avec Jésus sur sa journée. Ça n'est pas ça. Donc là déjà, on devrait faire descendre le niveau de culpabilité d'un cran, normalement. Condition que vous pensiez que ce que je dis est vrai et biblique, n'est-ce pas? Un disciple discipliné de Jésus est donc quelqu'un qui discerne quand rire, quand pleurer, quand s'indigner, quand être doux, quand faire silence, quand dire une parole de consolation et d'apaisement, quand dire une parole qui mène l'autre à la découverte de Dieu, et le fait sans attendre, efficacement et de manière aimante. Vous en connaissez, vous en avez déjà croisé des comme ça? Si la réponse est non, nous sommes mal. Mais c'est un chemin, hein? C'est un chemin. Alors qu'est-ce qui nous empêche, à titre personnel, de vivre ça? Quelles sont mes barrières? Quelles activités puis-je installer dans ma vie de tous les jours pour que ces barrières tombent et que je devienne, que je sois un véritable citoyen du royaume? Alors, moi je vais le faire personnellement, vous ferez ce que vous voulez, je vous donne un petit tuyau, une petite réflexion personnelle. Cette semaine, prenez le temps de relire le sermon sur la montagne. Vous voyez, Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 7. C'est le plus grand enseignement de Jésus, le plus grand et le plus long, qui commence par les huit béatitudes, hein, heureux, les pauvres de cœur, vous connaissez. Bon, eh bien, relisez ça cette semaine, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Et pour chaque chose que Jésus dit, demandez-vous où vous en êtes pratiquement. Et si vous n'êtes pas là, si vous ne vivez pas ça, demandez-vous pourquoi, et demandez-vous, quand vous avez le pourquoi, ou plutôt ce que vous pourriez engager dans votre vie, mettre en place pour commencer à vivre ça. D'accord? Moi, je vais le faire, hein. Donc, ce serait peut-être intéressant que plusieurs d'entre nous le fassent, ou même tout le monde, et qu'on puisse en parler plus tard. Voilà, ce serait sympa, me semble-t-il. Donc, tout ceci étant dit, vous pourriez encore vous poser encore au moins une question importante. Je vous ai dit, moi, les questions que je vous pose, c'est les questions que je me suis posées d'abord, hein. Quel est le rôle de Dieu dans la croissance spirituelle? Parce qu'on a parlé beaucoup de nous, de ce qu'on peut installer, mais qu'est-ce que Dieu fait pendant ce temps-là? Parce qu'il faut être clair, la Bible nous dit que cette transformation personnelle de chaque être humain est l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est tout à fait vrai pour une simple raison, c'est que un homme ou une femme qui change, c'est un miracle. Le problème étant que c'est que dans beaucoup de milieux chrétiens, quand on parle de miracle, il y a plein de trucs qui nous viennent dans notre tête, mais pas ça. Dans certains milieux, on chasse le miracle dans bien des domaines, mais le plus grand de tous, c'est un homme changé. Rappelez-vous ce que Jésus enseigne, c'est très intéressant ça. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Vous connaissez ce texte, hein? C'est un des passages, j'ai pas mis tout le passage, hein? C'est un des passages les plus mal compris, je pense, hein, de tout l'évangile. Parce que ce que Jésus dit, il y a des êtres qui ne me connaissent pas et qui vont avoir des attitudes envers des gens qui me connaissent extraordinaires. Parce que donner un verre d'eau quand on meurt de soif, ça peut paraître anecdotique, ça va quand même sauver la vie de la personne en face, hein? Parce qu'on peut mourir de soif, d'accord? Ça, c'est le fait de donner un verre d'eau, et puis Jésus va le mettre en opposition avec ceci. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ou enseigné, si vous préférez, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et là, il ne s'adresse pas à des non-croyants. D'accord? Jésus oppose la profondeur de la foi aux artifices de la foi, les actes de bonté aux actes de vanité. Mais j'ai chassé des démons en ton nom, Seigneur. Tu ne peux faire que m'accueillir. Il oppose la vie de disciple à la vie de clown. Comme ça, vous n'aurez plus de doute sur ce que je pense des milieux de Pentecôte. À titre personnel, lorsque les choses ont été très mal dans ma vie, il y a bien entendu eu des amis chrétiens qui ont été là pour moi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu. Et qui, contrairement à ce que d'autres chrétiens ont pensé, ont agi en disciples du Christ envers moi, en ne me laissant pas tomber. D'accord? Mais il y a aussi eu de nombreux non-chrétiens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu un verre d'eau, chaque fois qu'ils ont été là pour moi. Et Jésus dit, ceux-là, j'oublierai pas. Je les oublierai pas. Les autres qui m'ont enterré, je laisse le Seigneur le soin de faire ce qu'il voudra. Prions pour eux, mes frères, dont je plaisante. D'un côté, dans l'enseignement de Jésus, un chrétien qui fait des miracles et que Jésus ne connaît pas. De l'autre, un non-croyant qui pose un geste d'humanité que Jésus reconnaît et à qui il promet une récompense. Je ne sais pas vous, mais je pense vraiment que ça casse, ça massacre, ça met en petits morceaux beaucoup de conceptions, me semble-t-il. Et au milieu de ça, parce qu'il y a un milieu. Le vrai disciple, parce que c'est la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu, qui bâtit sa maison sur la parole de son maître. Pourquoi ? Parce qu'il la met en pratique. Il la vit. Donc une petite phrase que j'aimerais que vous méditiez cette semaine. Le royaume de Dieu est plus grand qu'on ne le pense souvent. Je vous aide pas, hein ? Je vais pas vous... Voilà, réfléchissez à ça. Le royaume de Dieu est plus grand qu'on ne le pense souvent. La transformation d'un homme ou d'une femme est donc le plus grand des miracles. Mais le présenter uniquement comme le résultat d'un entraînement, on a parlé beaucoup d'entraînement la semaine passée, pourrait faire croire qu'on peut l'orchestrer soi-même, qu'on peut le gérer soi-même, qu'on peut le diriger, le fabriquer soi-même. Puisque j'ai parlé des livres pour enfants, on va continuer par les dessins animés. Hein, soyons fous. Hop. Chaque fois qu'une grenouille est transformée en prince charmant, oui, mesdames, je sais que vous espérez ça de vos maris, mais c'est loupé. Hein. Chaque fois qu'une grenouille est transformée en prince charmant, ou plus modestement en une plus gentille grenouille, il y a toujours quelque chose d'étonnant et de mystérieux à l'œuvre, quelque chose de magique. En tout cas, dans les Disney, dans les contes pour enfants, quand ça se passe, il y a un côté magique qui est à l'œuvre. Nous sommes d'accord ? Dans la croissance spirituelle, ce quelque chose de mystérieux, c'est le travail du Saint-Esprit. Pour nous aider à comprendre ça, il y a une analogie que Jésus lui-même exprime et qu'on ne comprend pas trop bien la plupart du temps non plus, même si c'est un texte qu'on connaît bien. L'évangile de Jean, il dit ça à Nicodème. Vous voyez, ce responsable, cet enseignant de la Torah, donc de la parole de Dieu, du temps de Jésus, qui était venu le voir de nuit. Ben oui, parce que de jour, ses copains l'auraient vu, il aurait eu des problèmes. Et Jésus, je passe les détails, à un moment, lui dit « Le vent souffle où il veut ». Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Esprit avec un E majuscule, donc l'Esprit de Dieu. Pour comprendre ça, je vous propose de faire un comparatif entre deux types, entre guillemets, de véhicules aquatiques. Considérez la différence fondamentale qui existe entre un bateau à moteur et un voilier. Alors, un bateau à moteur, ben, vous pouvez faire le plein, vous pouvez le diriger, vous le conduisez en fait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes le maître du bateau à moteur. C'est vous qui avez le contrôle, nous sommes d'accord ? Un voilier, mes amis, c'est une autre histoire. Il y a des choses que vous pouvez faire comme hisser les voiles et tenir le gouvernail, ça c'est vrai, il vaut peut-être mieux même. Mais concernant le vent, vous êtes totalement dépendant. Parfois, il souffle et parfois, il ne souffle pas. Et dans ce cas, vous vous retrouvez là, à l'arrêt, au beau milieu de l'océan, et peu importe la frénésie avec laquelle vous allez vous agiter à ce moment-là, votre bateau ne bougera pas parce qu'il n'y a pas de vent. Vous êtes totalement dépendant du vent. Notre rôle est donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre le vent, pour le capter. La transformation spirituelle fonctionne comme ça. Peu importe l'énergie que nous déployons, nous ne pouvons ni la contrôler, ni la stopper. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine passée. Hein. Il travaille en nous, même si on n'en est pas conscient. Hein. Donc on ne maîtrise pas ça. Il n'y a pas de bouton marche-arrêt. C'est une chance. Parce que même quand vous faites des andouilles, Dieu peut s'en servir pour vous faire grandir. Évitez quand même. Hein. Comprenez ? Il faut éviter quand même. Nous pouvons nous ouvrir à la transformation au travers de certaines pratiques qui vont nous aider, ça c'est vrai, je l'ai assez dit, mais nous ne pouvons pas l'orchestrer. Nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite. Vous savez comme moi que dès que vous vous dites « Ah ! Qu'est-ce que je suis humble !» C'est déjà foutu. Et pourtant, ça nous vient vite. Hein. « Oh, qu'est-ce que je viens d'être gentil avec ce type !» dit. Foutu. Mais là, c'est aussi un moment où on se rend compte, ben oui, si ce n'est pas Dieu qui pousse, le jour où on te dira, merci Seigneur de ce que tu m'as donné la capacité, mais honnêtement, hein, vraiment, pas le dire simplement, d'aimer ou d'accueillir cette personne, on sera peut-être plus dans le good mood, comme on dit en anglais, hein, dans la bonne façon d'approcher les choses. Donc il est important de bien comprendre ça parce que c'est cette vérité qui nous sauve de l'orgueil et des efforts mal dirigés. Donc, et ça va nous rassurer, je pense. même si je ne suis pas là quand vous faites vos exercices spirituels. Pratiquer des exercices spirituels en serrant les poings et en grinçant des dents n'a en règle générale pas beaucoup d'effets positifs. En fait, un constant sentiment de contrainte et de poids à traîner, et honnêtement, notre vie spirituelle ressemble souvent à ça, indique probablement que nous sommes hors course, que notre voilier est sur le sable. Pourquoi ? Parce qu'on a cru qu'on pouvait le diriger nous-mêmes. Et quand on essaie de diriger spirituellement sa vie, de se transformer, même inconsciemment, par ses propres efforts, par sa propre volonté, c'est ça que ça donne. On est claqué, épuisé, on n'en peut plus, et on massacre tout le monde autour aussi. Comprenez ? Pourquoi des aides comme du temps de Jésus, mais ça existe pour nous aussi, hein, répertoriés, réputés comme étant des grands hommes de Dieu, proches de Dieu, étaient les pires des massacreurs en série. Voilà la raison. Alors, ceux qui me connaissaient un peu savent que je ne suis plus un idéaliste. J'ai dit plus. J'ai été, ça m'a coûté assez cher. Je suis plutôt devenu pragmatique. Mais je me soigne. Ça signifie que même si j'ai du mal à titre personnel à le vivre, parfois et même souvent, je crois profondément ce que Jésus dit. C'est pas pour ça que j'arrive à le vivre. C'est ça qu'on parle. Mais je le crois profondément. Et que dit-il en fait Jésus concernant la vie avec lui ? La vie spirituelle, donc la vie tout court, qu'est-ce qu'il dit ? Vous vous rappelez ? Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Alors pourquoi est-ce que ça semble si lourd ? Et on basque parce qu'on s'est trompé de chemin, hein, les enfants. Enfin, ça c'est la bonne nouvelle, hein. Vous allez me dire, oui, zut, ça fait 30 ans que je suis sur le mauvais chemin. Peu importe. Voilà. Il est important de changer de direction. Alors, rassurez-vous, ce thème revient dans la vie de nombreux disciples de Jésus, quelle que soit l'obédience ou la confession. Et ça, c'est très intéressant et très symptomatique que pendant des siècles, les premiers siècles d'histoire de l'Église, la plupart des chrétiens, pas seulement les pères de l'Église, comme on les appelle, mais d'autres, ils ont écrit des tomes et des tomes sur ce sujet. Alors j'en cite un, mais relativement contemporain, Frank Laubach. Le sens d'être conduit par une main invisible qui prend la mienne grandit en moi chaque jour. Je n'ai pas besoin de me contraindre pour trouver des opportunités d'être un disciple, ça c'est moi qui rajoute un entre parenthèses. La contrainte semble en fait ne faire aucun bien. Alors il est mort, Frank Laubach, aujourd'hui, et il a pas sorti ça au début de sa vie spirituelle. Ça serait magnifique qu'on comprenne tout dès le début, mais c'est rare que ça arrive. Bon, moi, il s'est dit, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais peut-être laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Allez, je vais essayer. Une autre analogie tirée de la voile concerne le fait que les marins, par exemple, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je regarde... Enfin, je crois que la série est finie. En zappant sur, il y a quelques semaines de ça, je suis tombé sur une émission qui parle des pêcheurs de crabes dans la mer de Bering. Ils font un boulot de fou, ces gens. Ah, qu'est-ce que c'est dangereux, qu'est-ce qu'ils sont courageux, enfin, soit. Puis, bon, ils n'ont pas des bateaux à voile, quelle chance, mais ça m'a quand même fait penser à cette analogie aussi, toujours concernant les voiliers. C'est que les marins qui sont sur ces voiliers, ils savent, eux, que leur tâche principale est de lire le vent, de lire les choses, de lire les événements, de chercher le vent, de discerner où il se trouve. En fait, de pratiquer le discernement. Discerner où est le vent. Un marin expérimenté peut simplement regarder un lac ou l'horizon sur la mer et savoir là où le vent va souffler le plus fort et quel changement de temps il va rencontrer. Geoffrey est rentré cette nuit du ski. Bon, ce n'est pas un guide de montagne, Geoffrey. Mais tous ceux qui ont fait du ski, c'est mon cas dans une certaine période, c'est hallucinant quand vous êtes en montagne avec un guide de montagne. Le ciel est bleu, dégagé, vous montez à 3500, 4000, vous dites on va passer une journée, ça va être le pied. Tout à coup, il s'arrête, il n'y a pas un nuage, hein, il se dit il faut qu'on descende, on a une heure. Il y a une tempête qui arrive. Et toi, vous dites attends, ici, il me dit lui, il est fou lui ou quoi, il n'y a pas un pet de vent. Eh ben, vous arrivez à la station une heure plus tard et vous ne voyez plus un mètre. Tempête. Comment est-ce qu'il sait ça? Il sait, il a appris à discerner le temps. Un marin sait quelle voile actionner afin de prendre le vent le plus efficacement possible. De la même manière, la croissance spirituelle requiert du discernement. On doit apprendre à discerner l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie. Et en réfléchissant à ça, il y a un texte, vous allez me dire, parfois, au niveau de ma pensée, c'est pas simplement en lien direct avec moi seulement, mais il vous emmène parfois dans des endroits où on ne se doute pas qu'il va vous mener. Rappelez-vous ce petit verset, je vous l'offre en tout cas, ce petit verset dans le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible. Ça, c'est le mont Horeb, où cet événement s'est passé. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? C'est la version français courant ici. Ben, c'est l'épisode du buisson ardent, vous voyez? Moïse, il guère ses moutons. C'est un morceau de la péninsule du Sinaï, vous voyez? Puis au loin, il voit un buisson qui brûle. Mais en fait, il y a la lumière, il y a la lueur des flammes, mais le buisson ne se consume pas. Il reste intact. Il dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et il dit quoi? Je vais faire un détour. C'est quoi faire un détour? C'est quitter la route que vous aviez décidé de prendre. Nous sommes d'accord? Moïse, il n'a pas demandé ou organisé l'épisode du buisson ardent. Nous sommes d'accord? C'est Dieu qui en a pris l'initiative. C'est Dieu qui lui propose le buisson. Encore fallait-il que, pour que quelque chose se passe, que Moïse décide de faire le détour, de changer de route, et une fois là, qu'il fasse un choix dans ce que Dieu lui propose. Dévier de sa route et prêter attention à l'œuvre de Dieu ou pas. Pour lire autrement, il ne dévie pas de sa route pour aller près de ce buisson, il ne va pas en Égypte, enfin, connaissez la suite. En d'autres termes, apprendre à discerner ce qui est en train de se jouer et de se passer véritablement. Donc la responsabilité de Dieu est de fournir le buisson ardent. Notre responsabilité est de faire le détour. Nous allons devoir au quotidien apprendre à diriger nos pensées vers Dieu le plus possible. Pour qu'il se passe quoi? Pour que nous puissions être ouverts à la possibilité de faire un détour. Franck de Laubach, parce que de ou Laubach, peu importe, il y a différentes orthographes. Avec le temps, vers la fin de sa vie, il disait lui-même, j'ai pris l'habitude, je ne sais pas comment il calculait ça, j'ai pris l'habitude, toutes les minutes, de penser une seconde à Jésus. Alors, est-ce qu'il faisait sonner son... J'espère que ne faites pas ça, ne commencez pas à faire sonner vos trucs toutes les minutes, parce qu'on va devenir fou. Mais je ne sais pas comment il organisait ça. Mais tous les X temps, il avait pris l'habitude de chaque fois recentrer vers Jésus. Alors ça vient pas tout seul, c'est de la discipline, encore une fois. Mais il dit lui-même que ça a transformé son rapport aux choses, donc à Dieu et aux autres, forcément. Parce qu'il a commencé à inviter Jésus dans son quotidien véritablement. Donc ça veut dire qu'il a eu sa vision des choses, de ce qu'il vivait au quotidien, des conneries, de manière totalement différente. La responsabilité de Dieu est de fournir le buisson ardent, notre responsabilité est de faire le détour. Autrement dit, de sortir de notre chemin à nous pour emprunter son chemin à lui. Et la vie spirituelle, c'est quoi? C'est l'interface entre les deux. C'est mon chemin et celui de Jésus, ils se confondent parce que c'est le même. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose que j'oublie quand même souvent. C'est comique, il est pasteur, ça change rien, vous savez. On peut s'occuper des affaires de Dieu et pas lui parler très souvent. C'est une image que j'ai souvent. Je fais ce qu'il me demande de faire, enfin, je pense savoir ce qu'il me demande de faire, mais quand il me convoque dans son bureau, on ne peut pas dire que ça se bouscule. Je suis occupé, là, je n'ai pas le temps. Tu ne te rends pas compte que je m'occupe de tes affaires, de ton royaume. Je suis en train de vendre ton royaume. Quoi. Tu crois qu'il va se vendre? C'est invendable ton truc, tu crois qu'il va se vendre sans que je me casse la tête? Non, mais je suis honnête, vraiment. Mais ça va mieux, ça va mieux. Vous voyez, je suis né beau, vous rendez compte, toutes les pelles que j'ai prises dans la tête pour comprendre ça. Par exemple, je vais de nouveau me charger la mule, il m'arrive parfois d'acheter des livres, alors le parfois est peut-être de trop en ce qui me concerne, vous savez bien, mais bon. Et j'ai parfois cette manie aussi de vouloir à tout prix les finir plutôt que prendre le temps de m'arrêter et de laisser l'Esprit de Dieu me parler sur le sujet en question. Par exemple, aller chercher un passage biblique au travers duquel Dieu pourrait me dire quelque chose, me reprendre, me consoler, ou même, soyons fous, hein, me guérir de quelque chose d'intérieur. Autrement dit, dans ce cas-là, mon rôle est de rester là, dans la lecture de ce livre, il y a un truc qui m'arrête, de rester là et d'attendre que le vent tombe, de rester là, parce que le vent est en train de souffler, l'Esprit est en train de souffler. Et j'attends tant que le vent n'est pas tombé, tant que Dieu n'a pas fait son œuvre en profondeur. Et quand le vent tombe, c'est le signe qu'il est temps pour moi de reprendre la route et de rechercher le vent. Autrement dit, pratiquement, dans ma vie à moi, je pratique souvent le hors-bord, mais très peu le voilier. Mais je vous promets que ça va changer. Je vais tout le temps décoiffer, ça va être une horreur. Quoique ma fille me dirait, t'en fais pas papa, ça va te faire des crawls en plus. Un autre exemple. Vous faites une retraite silencieuse et alors que vous vous promenez dans le jardin du monastère, silencieusement, un autre retraitant faisant silence vous bouscule violemment et ne s'excuse même pas parce qu'il fait silence. Il ne peut pas parler, donc il ne s'excuse pas. C'est là que vous le frappez, non, je plaisante. Hein. Le but des retraites silencieuses n'est pas de savoir combien de temps je peux rester sans prononcer un mot. Ce n'est pas le but. Hein. Mais de faire de la place à Jésus en moi, en faisant taire le bruit, et pour apprendre comment être davantage comme lui. C'est ça le but des retraites silencieuses. Hein. Et vivre comme lui, je vous rassure, hein, ça implique de s'excuser lorsqu'on bouscule quelqu'un, mais même si ce faisant, on va rompre le silence. Ça paraît anecdotique ce que je vous dis, mais c'est du vécu. Hein. Et puis vous, si la personne qui vous rentre dedans ne s'excuse pas, et vous avez encore 3 jours de retraite silencieuse, vous allez râler sur cette personne dans 3 jours. Elle va être merveilleuse, cette retraite silencieuse. Notre tâche fondamentale n'est pas de calculer combien de versets de la Bible nous lisons ou combien de temps nous passons à prier. Je vous assure que beaucoup de chrétiens en sont là. Hein. Je vais lire, je m'engage à lire ma Bible en un an, Seigneur, tu parles. Notre tâche est d'utiliser ces activités pour donner à Dieu des opportunités de faire son travail. Ce qui se passe alors dépend de lui, pas de vous. Alors j'aimerais terminer par un dernier épisode de la vie de Jésus et de ses disciples de l'époque. Je dis de l'époque parce qu'aujourd'hui nous faisons partie de ses disciples. En tout cas, on essaye, du moins j'espère. Je mets le contexte peut-être. Il a envoyé 70 de ses disciples en mission par deux, pour aller prêcher l'évangile. Et puis ils reviennent après un certain temps vers Jésus, et le premier truc qui se dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis !» Voilà, ça c'est très humain. Quoi. Premier rapport des 70 andouilles, « Seigneur, nous avons une telle puissance, nous chassons les démons. » Et Jésus répond, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Alors là, ça peut paraître aussi très anecdotique, mais en fait, je vous assure, ce que Jésus leur dit là, c'est loin d'être anecdotique. Ce passage, en fait, remet en perspective ce qui est vraiment important, ce qui fonde notre foi et notre espérance, et qui est également le fondement de notre capacité à changer. Et si vous ne retenez qu'un seul truc de ce que j'ai dit aujourd'hui, ce ne sera pas bien, mais quand même. J'aimerais bien que ce soit ça. Mais le Saint-Esprit fera ce qu'il veut, bien entendu. Jésus fait référence au nom des disciples qui sont inscrits dans le ciel. Il y a une référence biblique qui m'est revenue en écoutant un message de Tim Keller sur le sujet. Vous voyez, parfois c'est... Et ce texte, je vais le lire, on ne va pas le prendre, on ne va pas le projeter parce qu'il n'est pas là. Ce texte, c'est Exode 28, 15, 22. Alors certains vont dire, ah, ça t'a fait penser à ça, ben oui. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. En fait, il est en train de lui filer les infos pratiques pour construire le tabernacle, cette grande tente, qui devait conscientiser, manifester la présence de Dieu parmi son peuple. Dans le désert. Voilà ce qu'il dit. Tu feras le pectoral. Pectoral, c'est ce que le prêtre... Voilà, c'est ça. Mettez devant, ici. Du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que les fautes. Les fautes, c'est la robe qui est en dessous. Hein. En fil bleu, ça devait être joli. Hein. En fil bleu, pourpre et cramoisi. Et enfin, lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchasseras une garniture de 4 rangées de pierres. C'est ce qui est ici, projeté. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms, écoutez, hein, d'après les noms des fils d'Israël. D'ailleurs, si vous savez lire l'hébreu, il y a le nom de chaque tribu d'Israël marqué dessus. D'accord ? Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Et vous êtes en train de vous dire, mais avec quoi il vient, quoi ? Hein, franchement. Vous allez voir, c'est comme ça. Vous avez encore un doute que l'Ancien Testament est autant inspiré que le Nouveau. J'espère que ce sera fini. Le grand prêtre d'Israël a porté ce pectoral à chaque fois qu'il se présentait devant Dieu dans le lieu très saint, la deuxième partie sacrée de la tente, où il ne pouvait rentrer qu'une fois par an pour aller demander pardon pour son péché, le péché du peuple. Il portait donc sur sa poitrine ces 12 pierres précieuses, précieuses, j'insiste, représentant les 12 tribus devant Dieu dans le tabernacle, puis dans le temple, parce qu'on a continué le cérémonial, après quand on a commencé à fixer le lieu de la rencontre avec Dieu dans le dur. Le tabernacle et le temple, qui étaient, je le rappelle, des lieux, on perd ça de vue, hein, mais des lieux où la terre et le ciel se rencontraient à nouveau comme au temps du jardin d'Éden. Il n'y avait pas de séparation entre la réalité de la présence de Dieu est ici-bas, comprenez ? Alors aujourd'hui, si je donne une petite parenthèse, et pendant le ministère terrestre de Jésus, cette rencontre entre le ciel et la terre s'est faite en la personne de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Jean, quand il commence à écrire son évangile, le début de son évangile, il va dire « Et la parole de Dieu, donc le Christ, a, c'est traduit dans la version française, il a quoi ? Il a vécu parmi nous, c'est pas ce que le grec dit. Le grec dit « il a tabernaclé » parmi nous. Il a été le tabernacle de Dieu, le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Suivez ? Ok. Aujourd'hui, notre grand prêtre, c'est qui ? C'est le Christ, sommes d'accord ? Il est en permanence, pas une fois par an, hein, il est en permanence dans la présence de Dieu avec comme pectoral. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Avec comme pectoral nos noms. Vous êtes une pierre précieuse dans la présence de Dieu, qui scintille devant notre Père comme autant de pierres précieuses parfaites parce que rachetées au prix exorbitant de la vie de son Fils. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Heureux sommes-nous, nous dont les noms scintillent dans la présence de Dieu. C'est ça qui compte. Mes amis, le reste, on s'en tape. Hein. Non ? C'est pas fabuleux, ça. Ça n'a pas l'air. C'est, hein, quand même. Et puisons surtout, c'est important, dans cette réalité, le désir de devenir ce que nous sommes d'ores et déjà aux yeux de notre Père, ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il a de plus précieux. Quand il vous regarde, il ne voit pas le travail qui reste à faire. Hein. Il vous voit comme la plus précieuse des pierres précieuses. Vous n'avez pas de prix pour lui. Parce que ce prix, c'est Jésus qui l'a payé. Amen. J'ai cette capacité extraordinaire d'atomiser toujours tout le monde. Même quand j'essaie d'encourager, je tue tout le monde. Seigneur, libère-moi de cette possibilité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.